Audiolib présente
Le Grand Monde de Pierre Lemaître,
lu par l'auteur.
À Pierre Assouline, avec mon amitié, pour Pascaline. Il y aurait des romans à écrire. Lucien Baudard, La guerre d'Indochine. Si on peut être sûr d'une chose, c'est qu'aucune histoire n'est jamais vraiment terminée. Robert Penn Warren, Tous les hommes du roi. Première partie, Beyrouth, mars 1948. Chapitre 1, Puisque tu as décidé de partir. Au fil des années, la procession familiale qui empruntait l'avenue des Français avait connu bien des variantes, mais jamais encore elle n'avait pris l'allure d'un cortège funèbre. Au détail près qu'elle était bien vivante, il semblait cette année qu'on emmenait Madame Pelletier à sa dernière demeure. Son mari, lui, comme à son habitude, marchait en tête d'un pas d'autant plus solennel que son épouse se traînait loin derrière et ne cessait de s'arrêter pour adresser à son fils Étienne le regard d'une agonisante qui supplie qu'on l'achève. Derrière eux, Jean, dit Bouboule, en digne aîné, avançait d'un pas raide sa petite épouse Geneviève trottinant à son bras. François fermait la marche en compagnie de Hélène. À l'avant du cortège, M. Pelletier saluait en souriant les marchands ambulants de pastèques et de concombres, adressait un signe de la main au cireur de chaussures. On aurait juré un homme marchant vers son couronnement, ce qui n'était pas loin de la réalité. Le pèlerinage Pelletier se déroulait le premier dimanche de mars, quel que soit le temps. Les enfants l'avaient toujours connu. On pouvait échapper au mariage d'un voisin, au réveillon du jour de l'an, à l'agneau pascal, il était impensable de manquer l'anniversaire de la savonnerie. Cette année, M. Pelletier avait même payé les billets aller-retour depuis Paris pour être certain de la présence de François, de Jean et de son épouse. Le rituel comprenait acte 1, la lente déambulation jusqu'à la fabrique, principalement destinée aux voisins et aux connaissances. Acte 2, la visite des locaux que tout le monde connaissait par cœur. Acte 3, le retour avenue des Français avec un arrêt au Café des Colonnes pour prendre l'apéritif. Acte 4, le repas en famille. Comme ça disait François, on s'emmerde quatre fois au lieu d'une. Reconnaissons qu'au retour de la fabrique, il était assez pénible au café d'entendre M. Pelletier rappeler à l'usage de tous ceux qui l'écoutaient parce qu'il payait la tournée, les principales étapes de la saga familiale, histoire édifiante qui conduisait du premier Pelletier recensé, dont la présence auprès du maréchal Ney était, paraît-il, attestée, jusqu'à lui-même et à la maison Pelletier et fils, qui, à ses yeux, constituait l'accomplissement de la dynastie. Louis Pelletier était un homme calme, du genre qui ne perd pas facilement son sang-froid. Une petite moustache poivre et sel semblait, au-dessus d'une bouche bien dessinée qu'il avait léguée à tous ses enfants, un rappel de sa chevelure presque blanche, tirée au cordeau et qui faisait sa fierté. Tous les hommes de la famille étaient chauves à 40 ans, rappelait-il avec superbe, comme si ne pas l'être, confirmait qu'avec lui, la lignée Pelletier était à son acmé. Ses épaules étroites contrastaient avec ses hanches devenues larges. « Je pourrais être mannequin chez Saint-Galmier », plaisantait-il parfois en évoquant ses bouteilles d'eau gazeuses au col fin qui s'évasaient irrésistiblement vers le bas. On sentait, chez lui, une énergie sereine et quelque chose de discrètement satisfait. Il avait, c'est vrai, bien réussi. Dans les années 20, il avait acquis une savonnerie de taille modeste et l'avait développée en alliant la qualité de l'artisanat à l'efficacité industrielle. Il aimait les formules. Dans son esprit,